d'écoute, c'est du belge.
Du classic rock revival au menu d'écoute, c'est du belge. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le groupe The Flints. Ils sont de retour dans le studio d'Ultrason avec un nouveau single et une grande nouvelle à nous annoncer. Salut les gars.
Salut.
Hello tout le monde.
Alors avant de parler de votre nouveau single, on va revenir brièvement sur la naissance du projet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment The Flints a vu le jour?
Alors The Flints, ça a commencé pendant le Covid. Donc moi le bassiste avec Boris le guitariste, on se connaissait depuis un petit moment, on a vraiment voulu développer un groupe où on ne mettait pas de limites, on faisait vraiment la musique qu'on voulait. Et donc de ça, de composition qu'on a commencé à faire dans mon jardin, est né de Flints. Et c'est vraiment à partir de ça que c'est né. Puis on a réussi à trouver Raphaël au chant et Gaël à la batterie pour commencer à faire nos premières scènes, et c'est parti comme ça en fait.
Ouais, donc on rappelle que vous venez des quatre coins de la Belgique là.
Hein, c'est pas toujours facile, mais il y en a deux, donc Lucas et Boris qui viennent de Liège, et puis moi et Gaël de Arlon, mais maintenant Gaël étudie à Maastricht et moi je suis à Bruxelles, donc on quadrille bien la Belgique.
Alors quand on écoute votre musique, quand on regarde un peu votre look, on peut se douter de vos influences. Quelles sont justement vos sources d'inspiration?
Il y en a plein en fait, il y en a énormément. Après oui, on va pas se mentir, on a un petit affect pour la musique des années 70, plus précisément le classic rock. Donc on peut citer des groupes comme Free, Cream, Led Zepp, pour ne pas les citer. Et toute la vague aujourd'hui des groupes qui reprennent ça aussi, comme Dirty Honey, Rival Sons... et plein d'autres.
Greta Van Fleet, par exemple.
Oui, que j'oublie de mentionner.
Alors, qu'est-ce que vous aimez, justement, dans le classic rock de cette époque? Qu'est-ce qui fait que quatre jeunes garçons d'une vingtaine d'années s'intéressent à ce genre musical?
Je pense qu'il y a notamment vraiment cette absence de barrière dans la façon de faire de la musique, cette authenticité qu'on peut retrouver vraiment dans... Il y a très peu de filtres, en fait. C'est vraiment le groupe avec ses instruments. Et voilà, c'est vraiment partager quelque chose de façon très directe, sans artifice. Je pense que c'est en partie ça qu'on aime.
Ouais, et puis on dit un peu partout aussi qu'on a grandi avec des vinyles, et c'est pas un mensonge. Moi, j'ai vraiment grandi avec une armoire gigantesque de vinyles, et c'est là que j'ai découvert la musique, en fait. Donc forcément, ça nourrit un peu le cœur, l'esprit et la culture un peu musicale. Donc oui, c'est une grosse influence, je pense qu'on baigne dedans, et c'est un style qui nous parle, comme Lucas disait, c'est assez raw, les années 70, et c'est assez authentique. Et je pense que ça colle bien à nos personnalités aussi.
Vous aviez tous les mêmes influences à la base, ou bien vous avez dû vous mettre d'accord sur ça?
Non, je pense qu'on a beaucoup de styles différents, mais on se rejoint quand même d'une certaine manière. Et ensemble, on arrive à faire quelque chose qu'on aime, une musique qu'on aime, sans compromis, sans chichi, sans se poser de questions.
En fait, on est des amoureux de la musique aussi. On n'écoute pas que du classic rock, bien évidemment. On a tous nos phases où on écoute des choses différentes, mais on se réunit tous dans le classic rock. Et c'est, je pense, aussi le style musical qui nous parle le plus au final.
On écoute pas mal de Sabrina Carpenter ces derniers temps. Lucas adore. Donc.
Faut l'avouer.
C'est vraiment faux. Je n'en peux plus.
Alors, les gars, pourquoi avoir choisi The Flints comme nom de groupe? Est-ce qu'il y a une histoire derrière ce nom?
C'est un peu lié, en fait. C'est lié à beaucoup de choses. Je ne sais plus trop comment le nom est tombé sur le plateau. Mais forcément, quand on crée un groupe, c'est toujours l'aspect compliqué, trouver le nom. Et nous, je pense que c'est venu, Lucas, c'est pas toi qui as proposé ça?
Si, et en fait, quand on a trouvé ce nom, un peu, on va dire, par hasard, on s'est dit, mais en fait, c'est assez, assez évocateur, en fait, le fait d'avoir, on va dire, le Flints, donc le silex qui permet un peu de créer une étincelle et démarrer quelque chose. Voilà, je pense qu'au final, le rock et le feu, il y a beaucoup de points communs quand on y pense. Et c'est un peu comme ça... On peut faire des liens, en tout cas.
Alors, vous étiez venu l'année dernière pour présenter votre premier EP qui s'appelle First Spark. À l'époque, je vous avais demandé de me citer une scène sur laquelle vous rêviez de vous produire. Vous m'aviez répondu le Roots and Roses. Quelques jours après, on apprenait que vous seriez à l'affiche de ce festival. Comment ça s'est passé?
En vrai, on savait déjà qu'on serait.
Et on avait juste un petit mensonge.
Parce que là, on a une nouvelle scène de rêve qu'on voudrait faire.
Et vous le savez déjà.
Oui, c'est ça. Cette fois, on le sait déjà. Enfin, la dernière fois, on le savait aussi, mais ce n'était pas encore annoncé. Donc, on a sorti notre meilleur jeu d'acteur.
Et ça a marché, hein, je me suis fait avoir.
Faudrait réentendre. Je pense qu'on doit se trahir un peu quand même. Et oui, ça s'est fait parce que on tisse des contacts, des relations avec des gens. En l'occurrence, au Roots and Roses, c'était Guy. Et on a une relation vraiment incroyable avec lui aussi. Et là, pour l'avenir, on a de nouveau, effectivement, une scène de rêve qui se réalise.
Et pour te répondre, c'était génial, le Roots and Roses. De nos plus gros festivals, je pense, une scène incroyable et
il y a un public incroyable,
artistes de fou toute la journée.
Ouais, parce que vous avez ouvert en fait, il y avait du monde.
Oui, et ça c'était assez surprenant et c'était super cool. Guy était surpris, l'organisateur. Et donc nous, ça nous a fait super plaisir. On s'attendait à jouer devant l'herbe et en fait on a joué devant, je sais pas, plusieurs centaines de personnes.
Peut-être même 1000. Hein,
ouais, peut-être. C'est beaucoup, 1000 personnes. Beaucoup.
J'ai pas tout compté.
Vous avez aussi joué au Spirit of 66, le Classic 21 Festival. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces scènes?
Pour le Spirit, vraiment, c'est très particulier notre relation avec cette salle-là parce que moi et Boris qui venons de la région liégeoise et surtout de Verviers, en fait, c'est vraiment une salle mythique. Et c'est vrai que c'était un peu... on va pas dire sur la to-do list, mais au-delà de ça, même, c'est-à-dire c'est vraiment un rêve de jouer dans cette salle qui a vu passer vraiment de très grands noms. Et je pense que c'est un peu, c'est vraiment quelque chose qu'on a marqué, qui c'était pas n'importe quelle date pour nous, en tout cas, ça nous a vraiment touché de jouer là.
Et puis au-delà de ça, en fait, tu parles de plusieurs scènes qu'on a fait qui sont assez incroyables. Le rock, en fait, c'est aussi un style de musique qui se vit... nous, je pense que la majorité de l'année, elle est consacrée à faire des scènes. Donc, il y a beaucoup de fantasmes quand on est un groupe de rock, de quel genre de scène et tout ça, jouer dans une énorme salle. Et par exemple, le Country Hall de Liège, c'était complètement différent du Spirit, par exemple. Pour autant, je pense qu'on voit autant de qualité dans une scène que l'autre, parce que le Spirit, on était vraiment entouré de... des gens qui nous aiment, qui sont venus pour nous. Donc le club était plein à craquer, il faisait chaud, il y avait une ambiance de folie. Tandis que le Country Hall, on ouvrait pour la journée, donc la scène était gigantesque, c'était hyper plaisant. Mais on ouvrait, donc les gens n'étaient pas encore tout à fait dedans. C'est pas du tout une critique, hein, mais c'est pour dire que c'est normal, je pense, tous les groupes qui ouvrent des grandes journées comme ça, des festivals. Mais par contre, c'était incroyable cette expérience d'être sur une scène, une salle où t'entends ta voix résonner à 200 mètres de toi. C'est aussi la wishlist du rock, c'est faire des arènes et des petits clubs. Pour l'instant, en tout cas, on aime autant l'un que l'autre.
Et ce qu'on en tire pour répondre à ta question, je pense, c'est l'expérience. En fait, hein, on a depuis ce moment-là pas mal tourné, fait des scènes, comme il a dit, comme classique où c'est immense et puis comme le Spirit où c'est beaucoup plus intimiste avec des buts et des envies des gens qui sont là qui sont complètement différentes et tout ça, ça nous construit, ça nous a construit pour être le Flynn's d'aujourd'hui, quoi.
Alors on va revenir sur votre actualité puisqu'aujourd'hui vous êtes de retour avec un nouveau single. Single s'appelle Tea Party, pas toujours facile à prononcer. Parlez-nous un petit peu de ce morceau et surtout pourquoi ce titre ?
Pourquoi ce titre ? En fait, simplement, quand on travaille sur des morceaux, sur des nouvelles chansons, on aime bien leur mettre des titres intermédiaires, souvent, qui représentent vraiment l'ambiance de la chanson. Et il s'avère qu'au final, Tea Party, on n'a pas trouvé de titre plus fort que Tea Party, qui représente au final très bien la chanson, avec ce côté hyper chantant de la fête, du fait qu'on veut partager la musique et tout ce qu'on a vécu jusqu'ici avec les gens, et ce côté justement tea qui est un peu plus conventionnel, plus on s'assoit pour boire le thé, et nous on voulait venir justement éclater tout ça avec ce contraste de Tea Party.
C'est pour ça qu'on a fait aussi un teaser que vous avez peut-être vu, on casse un pot, on a passé une journée à faire
avec
ça.
Un club de golf, là. Ouais. Vous avez dû vous y reprendre à plusieurs fois ou...
Oui,
trois essais quand même.
On a fait plusieurs petites brocantes. Les gens ont pensé qu'on était des malades mentaux parce qu'on a acheté plein de pots de thé. Qu'est-ce qui se passe avec cette razzia là sur les pots de thé ? Et c'est vrai que Raph, il parle du fait que le titre est venu un peu comme ça. C'est marrant parce que notre premier single sur le premier EP, White Lava, c'est aussi un titre qui nous est venu un peu comme ça, un peu tombé du ciel et qu'on s'est dit, en fait, ça colle bien au morceau, on ne sait pas trop pourquoi. Et je pense aussi que c'est assez sympathique pour les gens de s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire et tout ça, d'y réfléchir de leur côté.
Ouais, ouais. Alors, single, il est accompagné d'un clip. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur ce clip ?
C'est un clip qu'on a fait en collaboration. C'est aussi des liens qu'on a tissés au Roots and Roses. Pour parler de pourquoi peut-être on voulait faire un clip, c'est aussi justement tout ce truc de montrer notre univers et tout ça. On n'avait jamais eu l'occasion, je pense, de... Le premier clip, il était fait par nous-mêmes, c'était un clip maison. Là, on voulait vraiment mettre les petits plats dans les grands avec ce single, par rapport aux gens avec qui on a travaillé, mais aussi par rapport au visuel qu'on a sorti. On voulait faire en fait un clip qui était vraiment au niveau de tout ça. Et donc, on a rencontré une équipe vidéo au Roots & Roses qui a réalisé l'after movie du festival. Et quand on a vu cet after movie, on s'est dit « Waouh, il y a un truc là-dedans, ils ont vraiment une patte, ils arrivent à raconter une histoire autour du festival. » Et donc, on les a contactés, c'est We Create Ripples, ils viennent de Bruxelles, ils sont d'origine flamande. Et on a travaillé ensemble sur l'élaboration du clip, qu'est-ce qu'on pouvait raconter autour de cette chanson et ses paroles écrites par Raphaël, qui parle aussi de quelque chose d'assez concret.
Oui, au regard des paroles, en fait, on ne pouvait pas ne pas faire de clip aussi. Au-delà d'être un plaisir, on s'est dit vraiment, si on ne fait pas un clip pour cette chanson-là, on n'en fera jamais.
Oui, c'est ça. Mais certains disent aujourd'hui qu'un clip, ça ne sert plus à rien. Parce que bon, voilà, il y a la vidéo TikTok qui dure 4 secondes. Enfin, voilà. C'est quoi votre avis là-dessus, en fait ? Le clip, il sert à quelque chose. Il sert vraiment à mettre, je veux dire, des images sur votre musique, à expliquer un petit peu le contexte de la chanson ou...
Mais en fait, je voulais t'en parler par rapport au nom du groupe, à l'univers 70s et tout ça. Moi, je ne sais pas comment les autres le ressentent, mais je suis de plus en plus en fait en train de créer un espèce de petit univers autour de nous dans ma tête. Le gars qui est pas net. On vit sur une petite planète. Non, mais il y a un peu ce côté, encore une fois, fantasme. On s'imagine un groupe de rock 70s, on s'imagine un peu comment, où est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils portent, comment c'est leur journée. Un peu un truc comme ça où j'ai envie qu'on crée un peu quatre personnages et un groupe qui fait un peu rêver les gens, qui les sort un peu du quotidien, tout ça. Un peu comme on s'imaginerait les Daft Punk en train de faire, je sais pas, c'est un peu quatre super-héros comme ça. Et du coup, bah, toute l'esthétique qui tourne autour de nous, je pense que c'était super important de développer ça et de montrer quelque chose aux gens qui est en lien avec les paroles, encore une fois, qui parle de se dépasser, qui parle d'aller chercher un peu le ciel et tout ça en tant que groupe. Et on vit un peu dans ce... Je pense au travers des paroles, de notre musique et des vidéos, on vit un peu ce rêve comme ça et on essaye de proposer ça aux gens, de les faire s'évader. Donc pour nous, c'est assez important, oui, d'avoir des clips. Je pense qu'ils ont encore leur importance parce que moi, personnellement, j'en regarde beaucoup. Et du clip, on a fait du contenu sur les réseaux un peu plus court, donc on mélange un peu les deux.
En fait, c'est ça. Aujourd'hui, c'est peut-être pas le média à la mode, une vidéo YouTube de 3 minutes 30. C'est peut-être plus les clips comme à l'époque où tout le monde fonce sur les clips. Peut-être que les gens vont plutôt attendre le contenu réseau plus court, plus efficace. Mais en attendant, nous, ça, on fait ça aussi parce qu'on aime ça et parce qu'on sait qu'il y a des gens qui aiment ça et que ça a une importance de pouvoir montrer ça aussi. Et faire kiffer notre public et nous.
Parce que c'est la meilleure des raisons. Hein.
Ouais. Ça a été incroyable de faire ça. Et au final, c'est pas inutile non plus, parce que de là, on en tire des visuels qui servent pour les réseaux et pour aller prospecter peut-être de façon un peu plus large des gens qui ne nous connaîtraient pas.
Et puis c'est aussi un peu notre mentalité, quoi. On réfléchit pas toujours à ce qui se fait ou ce qui se fait pas. Je pense que tout ce qui se fait au sein du groupe se fait vraiment avec le cœur et de l'ambition, parce que bah, c'est ça qui nous fait plaisir aussi. On fait déjà pas ce style de musique de base pour être dans les formats les plus mainstream, donc autant faire les choses comme on les croit, quoi.
Alors, pour l'enregistrement de cet album, vous avez collaboré avec Mario Gossens et Greg Gordon. Parlez-nous un petit peu de cette collaboration.
Alors, cette collaboration, elle vient de base justement de l'anniversaire de Classic 21, quand on a joué en premier. On a pu avoir le contact avec Slupper, qui a joué aussi ce jour-là. Et c'est face à là qu'on a rencontré Mario Gossens, qu'on a un peu lié des liens avec lui. Et le fait est qu'après, on est à nouveau, on a un peu échangé par la suite. Et l'idée d'avoir une production de sa part, c'est à un moment donné venu dans la conversation. On s'est vu pendant des répètes pour voir avec nos morceaux s'il y avait quelque chose qu'il tentait. Et il a dit sur ce morceau-là, tiens, ça serait chouette de faire quelque chose, je vois quelque chose. Et là, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment une collaboration avec beaucoup de confiance des deux côtés qui a dû se mettre en place. Et c'est vraiment, je pense que c'est du bonheur pour chacun de nous d'avoir vraiment vécu ça. Donc c'est comme ça que c'est né avec Mario Gossens et Greg Gordon. C'est venu par la suite justement quand il était question de mixage et de mastering, où il nous a dit, si vous voulez et si ça vous tente, on peut aller vers cette personne qui était dans ses contacts. qui connaît très bien justement, et là aussi on a été très 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 agréablement surpris du travail qu'il a fourni.
Puis il a bossé avec Greta Van Fleet, je pense.
Oui, on n'a pas été surpris que ça sonne bien.
On n'a pas été surpris, mais on a. Voilà,
il a travaillé avec Greta Van Fleet, Rival Sons, Jet, Wolf Mother, donc c'est que des
petits groupes, quoi.
Ouais, exact. Ça.
On n'allait pas dire non quand on nous a proposé de travailler avec. Voilà.
Mais non, ça nous fait super plaisir. Enfin, c'est un peu fou aussi. Ce qui nous arrive.
Ouais, et vous remarquez une grosse différence au niveau du son par rapport à votre premier EP ?
Ah oui,
clairement.
Clairement, parce que Mario, en fait, pour les gens qui savent pas trop comment fonctionnent les rôles comme ça dans la création de la musique, il a agi en tant que producteur. Donc, producteur, quand les gens ils entendent producteur, souvent on imagine un financier, mais c'est pas ça dans la musique. C'est plutôt quelqu'un qui est là pour nous aider à construire le son, à aller chercher dans la composition des idées et tout ça. Donc, il est un peu là comme directeur artistique d'un morceau, on va dire. Et dans ce contexte, en fait, Mario nous a sortis de ce qu'on fait d'habitude. Donc sur scène, souvent en studio, on a tendance à se tourner vers des instruments comme des Gibson, des amplis Marshall. Donc c'est un peu le classique dans le rock pour avoir un gros son, Led Zeppelin, AC/DC. Et là, Mario, en fait, qui est dans Trigger Finger, ils ont un son incroyable. C'est aussi ça qui nous a motivé vraiment à travailler avec lui, c'est que je sais pas si en groupe rock il y en a un qui tape plus que Trigger Finger vraiment. Et donc il est venu avec en fait les amplis qu'il a chez lui, des pédales aussi. Il y a une pédale là qui avait été faite pour son guitariste Ruben Block qu'on a utilisé sur la guitare et la basse. Je suis un peu en train de m'enfoncer dans le rabbit hole du matos là, mais en gros c'est pour expliquer que il nous a fait essayer aussi des guitares qui avaient rien à voir avec ce qu'on utilise d'habitude. Des effets, tout ça sur la voix. On a vraiment travaillé en fermant les yeux avec lui. Il a proposé un truc complètement différent de ce qu'on fait d'habitude, mais en restant forcément toujours dans l'ADN qui fait notre musique. Donc c'était assez enrichissant.
Je pense que ce qu'il y a surtout à retenir en fait cette collaboration, c'est qu'au-delà voilà d'une patte artistique qu'il a pu nous apporter, voilà nous vraiment nous sortir de ce qu'on connaissait, c'est vraiment nous sortir un peu de notre zone de confort et découvrir des choses, et il nous a dit plein de fois c'était juste essayons ça, voyons ce que ça donne. Et je pense que c'est vraiment on a vraiment vraiment gagné en maturité musicale, je pense, avec le travail qu'on a fait avec lui. Je pense qu'on le remerciera jamais assez pour ça, parce que voilà, au-delà de sortir un morceau, c'est aussi un travail sur nous-mêmes qu'il a fait, je pense.
Alors, qui dit nouveau single dit nouvel album, je suppose.
Haha. C'est un peu le. On est en train de travailler pour l'instant sur beaucoup de choses. Et le fait est que la musique d'aujourd'hui, le mode de consommation et tout, sur Spotify, sur les réseaux, permet vraiment de pouvoir sortir comme ça, de dropper un petit single ici par là. Et puis après, oui, forcément, peut-être de le reprendre dans un plus grand projet. Mais on a plein d'idées en tête. Dont on viendra vous reparler, évidemment.
Mais évidemment, avec grand plaisir, vous avez déjà de la matière en stock.
Mmh. En fait, oui, bien sûr, là, on a une petite pause concert, parce que justement, on veut se concentrer sur tout cet aspect, plutôt production, écriture de chansons, parce qu'on bosse déjà sur des chansons qui ne devraient même pas être dans un premier projet, premier gros projet. Donc oui, tout ça se met en place petit à petit, et l'année prochaine, peut-être que quelque chose devrait sortir, ça oui.
Ouais. Alors on parle de l'année prochaine, puisque l'autre grande nouvelle qu'on a appris cette semaine, c'est votre concert qui aura lieu à l'ancienne Belgique le 31 mars. À quoi peut-on s'attendre pendant ce concert ? Déjà, félicitations pour l'abbé.
Merci beaucoup.
À quoi peut-on s'attendre pour ce concert ?
Avec cette date qui est vraiment, enfin voilà, l'abbé, c'est pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important. Je pense qu'on veut vraiment mettre le paquet d'une certaine façon et montrer aux gens qui seront là, peut-être d'autres facettes de ce qu'on peut proposer. Et surtout, voilà, en tout cas pour l'instant, la date avant n'est pas toute proche. Et on veut vraiment revenir avec des choses fortes, beaucoup de choses nouvelles, je pense.
Il y aura ce numéro de danse que Lucas est en train de préparer. Ça va être
Il ne fallait pas en parler. mais je pense que l'idée, c'est de surprendre et vraiment voilà, de pouvoir pousser les limites de ce qu'on fait actuellement.
Alors, en plus de votre date à l'abbé, donc le concert qui aura lieu le 31 mars, est-ce qu'il y aura d'autres dates ? Est-ce qu'on pourra vous retrouver sur scène avant ou après l'abbé ?
Alors oui, vous pourrez nous retrouver au 66 pour une deuxième date là-bas, donc le Spirit à Verviers, le 13 février 2026. donc okay. juste avant la Saint-Valentin.
Ouais.
Et puis le 31 mars à l'ancienne Belgique, à Bruxelles. Donc il y a ces deux dates-là de prévues d'ici là. Et vous pouvez retrouver toutes nos dates sur notre site internet, c'est theflints.be tout simplement, avec un Y, attention. Et on partage souvent aussi nos dates sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à suivre toutes les dates là-dessus.
Ouais, c'est quoi le prochain rêve ?
Pour moi, personnellement, ce serait peut-être un petit Werther, un petit grass pop.
Ouais.
Je sais pas pour vous.
Ouais, Werther, ça sonne doux aux oreilles quand même, effectivement.
Werther. Ah oui, ça c'est très agréable. C'est
voilà, très mais on est tous d'accord là-dessus. Allez, on va tout doucement clôturer cette interview. Hein. Si vous aimez le rock revival que propose The Flints, je vous propose d'aller écouter leur musique, d'aller regarder les clips sur YouTube. Le tout nouveau clip est vraiment très très sympa. Likez, suivez, partagez. N'hésitez pas non plus à aller les voir sur scène parce que ça vaut vraiment la peine. C'est là que ça se passe. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter l'intégralité de cette interview sur le www.ultrason.be, sur les plateformes. Voilà, et puis on se quitte pas sans un peu de musique. On va écouter ce morceau, il s'appelle Tea Party. Voici The Flints. Flew over.